Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mr. the President. Happy birthday to you.
Alors attention, cet auditeur n'est pas vraiment ivre. Il ne cherche pas à ridiculiser nos amis américains. Il n'a pas l'intention d'insulter la mémoire de Marilyn Monroe. Il tente simplement de faire une parodie humoristique pour le 73e anniversaire du président de la République. Nous espérons que cette touche d'impertinence ne blessera aucun auditeur. Pourquoi je vous parle comme ça? Eh bien parce qu'hier, en début d'émission de la base où j'y suis, on a diffusé un message d'un auditeur qui en envoie régulièrement, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Claude, au sujet de la dictée de Bernard Pivot. Et c'était du deuxième degré et du troisième degré. On a trouvé que c'était drôle, j'ai trouvé que c'était drôle de vous faire écouter ça. Eh bien, il y a toute une série d'auditeurs qui n'ont rien compris, qui n'ont pas pigé que c'était du deuxième degré et qui ont dit c'est des propos racistes, etc. Enfin, pas 5000 auditeurs, mais quelques-uns quand même qui n'ont pas compris l'humour, le deuxième degré de Claude. Donc, aujourd'hui, j'insiste bien, ce que vous venez d'entendre, c'est de l'humour. Ok, voilà. Ce sera le seul message aujourd'hui. Des fois que si on en passe d'autres et qu'il y a à nouveau des malentendus, il faut faire très attention dans ce pays qui devient parfois très politically correct. Alors, ça c'est pour commencer. Des choses qui vont bien, qui marchent bien, c'est les repères des amis de là-bas si j'y suis. Celui de Strasbourg, le bar de la Hache. Mardi 29 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui à 20h, eh ben, les amis de là-bas, si j'y suis, vous attendent au bar de la Hache à Strasbourg à 20h. Et puis, deux nouveaux repères de là-bas, si j'y suis, commencent ces jours-ci. Un café au Vigan, le Vigan, vous voyez où c'est. C'est le café de l'avenir, boulevard des Châtaigniers. Et le premier rendez-vous des amis de là-bas, si j'y suis, ce sera le premier. C'est le vendredi 2 décembre à 19h, vendredi prochain. Et puis encore un autre qui vient d'ouvrir, qui va ouvrir, c'est à Saint-Césaire. Saint-Césaire, c'est entre Cognac et Saintes, c'est dans les Charentes-Maritimes. Et c'est le Géocafé qui est situé à l'intérieur du Paléocyte. Voilà, c'est comme ça, c'est l'accès libre au Paléocyte de Saint-Césaire. Et le premier rendez-vous des amis de là-bas, si j'y suis, dans ce repère, ce sera le samedi 3 décembre à 15h30, c'est-à-dire samedi prochain. Aujourd'hui, on va passer une heure avec le journal Libération. On parle beaucoup de Libération aujourd'hui. Vous savez pourquoi, très probablement, si vous êtes des fidèles amis et des fidèles auditeurs de France Inter. Eh bien, on va en parler, mais d'une autre façon, avec un sociologue qui s'appelle Pierre Rimbert et qui publie dans la collection Raison d'agir, cette petite collection, je crois que c'est Le Seuil qui publie ça. Une petite collection, pas chère du tout, puisque c'est un livre qui coûte 6 euros. Et ça s'intitule « Libération de Sartre à Rothschild ».« Libération de Sartre à Rothschild », c'est une histoire, vous allez voir, du journal Libération. Mais pas seulement, c'est jusqu'à 18h, dans la basse, j'y suis. Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Pierre Rimbert, Libération, de Sartre à Rothschild.
Flight number 2, arriving from New York.
Libération sera un quotidien d'information, le quotidien des lecteurs de la grande presse, fatigué d'une presse qui les méprise, fatigué des journaux financés par la banque et la publicité, fatigué d'une information étranglée.
Des militants venus de divers horizons et des journalistes ont décidé de se battre pour que le peuple ait un journal. un journal ouvert qui permettra dans le domaine de l'information la démocratie directe.
Il faut, pour comprendre ce que nous voulons, voir ce qu'il faut entendre par liberté d'information. Or, la première chose sur laquelle on fait l'erreur, c'est qu'on voit que la liberté d'information, le droit à la liberté de la presse, c'est un droit du journaliste. Et pas du tout. C'est un droit du lecteur du journal. C'est-à-dire que c'est les gens, dans la rue, les gens qui achètent le journal, qui ont le droit d'être informés. C'est les gens qui travaillent dans une entreprise, dans un chantier, dans un bureau, qui ont le droit de savoir ce qui se passe et d'en tirer les conséquences.
Voilà, ça c'est la voix de Jean-Paul Sartre, et les sons qu'on vient d'entendre, les voix qu'on vient d'entendre, sont les voix de ceux qui donnaient en 1973, il y a 32 ans, une conférence de presse à l'occasion de la création du journal Libération. Pour ceux qui ont l'oreille fine, on entendra ou on a déjà entendu Serge July, d'autres de cette équipe créatrice de Libération. Pierre Rimbert, avec ce petit bouquin intitulé « Libération de Sartre à Rothschild », vous racontez l'histoire du journal Libération, mais pas seulement. Alors, on peut se dire, l'histoire du journal Libération, est-ce que ça veut dire que cette histoire est terminée avec les événements et les grèves actuelles?
Non, l'histoire n'est pas terminée, mais ce qui est remarquable, c'est que l'histoire de Libération de Sartre, son fondateur, et qui fut aussi son premier directeur à Rothschild, qui est aujourd'hui son actionnaire de référence, c'est aussi un petit peu l'histoire de la gauche française, c'est-à-dire le passage d'une gauche assez radicale qui voulait changer le monde à une gauche qui se contente d'administrer l'ordre des choses.
De Sartre à Rothschild, Libération de Sartre à Rothschild, ça rappelle un livre fameux qui est sorti en 1986, écrit par un collaborateur de Libération qui s'appelait Guy Hockenheim, et qui, en 1986, publiait une lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary. Là, c'est de Sartre à Rothschild. Lui, c'était en 1986, du Colmao au Rotary. Comme si la trahison, comme si la conversion au conservatisme, à l'ordre des choses, était dans le sens même de cette aventure.
Oui, effectivement, lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, qui a d'ailleurs été republié là, par les éditions Agone. Ça raconte une série de reniements individuels. Mais l'histoire de Libération, ça n'est pas qu'une série de reniements individuels. C'est aussi l'histoire d'un embourgeoisement collectif, hein, de gens qui étaient à la fois des lecteurs et des journalistes de Libération, et qui étaient soucieux de changer les choses, de changer la société, de faire la révolution pour certains d'entre eux, et qui peu à peu se sont installés au tournant des années 70, au début des années 80, ont eu des enfants, ont eu des emprunts immobiliers, ont desserré un cran de ceinture, etc. Et peu à peu, leurs intérêts économiques les ont conduits à ne plus désirer changer l'ordre des choses. Par contre, ce sont des gens qui avaient toujours des catégories culturelles basées sur les avant-gardes des années 60, sur les transgressions des années 60 et 70.
Alors là, l'une des voix qu'on entendait disait « nous sommes contre », enfin on est fatigué de la banque et de la publicité. Hein. C'était la terminologie de l'époque, une terminologie très militante, très Mao, hein. 1973. On va voir que et la banque et la publicité ont fini par gagner, prendre le pouvoir sur le journal.
D'autant plus que lors des assemblées générales qui ont ponctué la dernière grève de 4 jours de Libération, des journalistes, au nombre desquels Florence Aubenas, ont proposé que Libération devienne un journal gratuit, un gratuit haut de gamme, ce qui serait une sorte de conclusion magistrale de cette épopée de Libération de Sartre à Rothschild, un journal qui refusait toute forme de publicité et qui, si cette hypothèse était explorée plus en avant, finirait comme une espèce de sac à pub entièrement financé par la réclame.
Le journal attaque toutes les institutions qui modèlent la pensée des gens, qui cherchent à contrôler au service des intérêts, leurs idées, leurs impulsions, leurs instincts. démontons, que ce soit la télévision, l'enseignement, la culture, tous ces instruments dont la bourgeoisie se sert pour tenir la population, pour la tenir à sa place.
Nous avons besoin de rédacteurs, de reporters, de secrétaires de rédaction, de dessinateurs. Venez nous aider. C'est l'occasion pour la profession tout entière de démontrer qu'elle est prête à honorer sa déontologie, sa morale, et prête à se mettre vraiment au service du public.
Alors on dit pas service du peuple, mais c'est pas loin, service du public. Dans quel contexte historique, disons, naît Libération 1973?
Tout à l'heure, on a entendu Sartre parler de Libération. C'est déjà un premier élément du contexte. À ce moment-là, au début des années 70, des intellectuels reconnus comme Sartre, Foucault, mais aussi des artistes, ne passaient pas leur temps sur les plateaux de télévision à vendre leurs livres ou leurs spectacles ou leurs films. C'était des gens qui entretenaient avec les médias une distance suffisamment grande pour leur permettre d'avoir une certaine liberté de critiquer les médias, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Mmh. Critiquer les médias, mais aussi soutenir la presse alternative, la presse qu'ils appelaient la presse libre, et soutenir, dans le cas d'espèce, la naissance de Libération. Mmh. Le deuxième élément de contexte, c'est que Libération a cristallisé, en quelque sorte, toute une critique des médias qui s'était développée depuis 68. Et c'était une critique qui dénonçait, dans un même mouvement, à la fois le contrôle politique sur l'information audiovisuelle, hein, l'ORTF avec la censure du gouvernement, mmh. et puis, en même temps, qui dénonçait le capitalisme de presse, la concentration des journaux, l'influence des propriétaires sur la presse. À vrai dire, la question de l'information, de la liberté de l'information, était une question politique. C'était une question qu'on entendait résoudre avec les moyens de la politique. Et on oublie un petit peu, c'est normal quand on lit Libération aujourd'hui, que ce journal a d'abord été conçu comme une espèce de critique en acte des médias dominants. Si vous relisez le manifeste de décembre 72, Libération est décrit comme, je cite, une embuscade dans la jungle de l'information. Les fondateurs du journal entendent, je les cite, lutter contre le journalisme couché. Et puis, lire les extraits aujourd'hui du manifeste de Libération, c'est assez étonnant. J'en cite un passage. « Aujourd'hui, la presse quotidienne donne la parole au patronat, aux politiciens, aux puissants, qui d'ailleurs financent cette presse. Et elle se contente, quand elle ne peut faire autrement, de citer des bouts de phrases d'ouvriers et de paysans. Le quotidien Libération donnera la parole au peuple et citera des bouts de phrases de puissants. Il renversera le monde de la presse quotidienne. » Alors ce qui est curieux, c'est que on est presque 25 ans plus tard et toute la première partie de ce manifeste est encore valable. Aujourd'hui, la presse quotidienne donne toujours la parole au patronat, aux politiciens, aux puissants. Mais par contre, Libération ne donne plus la parole au peuple, il donne la parole à Alain Duhamel, qui est son chroniqueur politique.
En 1973, au moment de la sortie, la création de Libération, Jean-Paul Sartre est reçu par Jacques Chancel.
Radioscopie, Jean-Paul Sartre, Jacques Chancel.
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour ce journal. Et ce journal ne m'apparaît pas simplement un journal de journalisme. Faire parler les gens. Et oui, j'ai fait des meetings en province, à Lille, à Lyon, sur ce journal. Ce qui était très émouvant, c'était de voir des ouvriers, des infirmières de l'hospice de vieillards, des choses comme ça, venir nous dire, est-ce que vous direz ça? Nous essayons de faire passer telle information dans les journaux de notre pays, du Nord ou bien du Lyonnais. Et nous n'y arrivons pas. Telle chose a eu lieu, n'y arrivons pas. Et ce qu'elle disait était émouvant. Et nous pensions que ça, en effet, c'était ça qu'il fallait que notre journal...
Allez-vous réussir?
Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Ça ne dépend pas seulement de nous, hein. Nous sommes simplement ceux qui lançons l'idée, qui essayons de réunir des documents. Mais ça dépend du peuple, c'est-à-dire des gens.
Voilà, la voix de Jean-Paul Sartre en 1973, lors de la sortie de Libération, il faut dire, je me souviens de cette époque, que Sartre ne venait pas à l'ORTF. Hein. L'ORTF, c'était l'endroit où il fallait surtout pas venir. On se souvient du slogan de mai 68, la police à l'ORTF, c'est la police chez vous. Donc Sartre ne venait pas à l'ORTF, mais il était venu à l'occasion de la création de... Enfin, la sortie de Libération.
Oui, et Chancel était un peu exaspéré parce qu'il voulait que Sartre lui parle de philosophie, de littérature et de théâtre, et Sartre ne lui parlait que de Libération. Et ça rendait un peu Chancel foudrage. Alors, est-ce qu'il a réussi? Est-ce que Libération a réussi? C'est vrai que c'est un journal inédit dans les années 70, quand ses fondateurs parlaient de renverser le monde de la presse quotidienne. Ça voulait dire trois choses, et trois choses qui ont peu ou prou marché pendant un temps. Ça voulait d'abord dire changer la façon de faire du journalisme. Les journalistes, comme nous l'explique Sartre, ne se situent plus au-dessus de ceux dont ils parlent, mais ils donnent la parole au peuple. Ce sont des écrivains publics, les scribes du peuple. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus.
Et qui n'existait pas à l'époque non plus, oui.
Voilà.
Oui, qui était, oui.
Et puis, renverser le monde de la presse, c'était aussi faire exploser les hiérarchies dominantes de l'information. Comment est-ce qu'on structure un journal télé ou une page d'un quotidien? L'équipe de Libération traitait en priorité les sujets que ses confrères négligeaient, que la presse dominante négligeait. Par exemple, les luttes sociales. Et simultanément, elle négligeait les thèmes qui obsédait, qui obsède toujours d'ailleurs, les éditorialistes parisiens comme le commentaire politique. Pour vous donner un exemple, il n'y avait pas de rubrique économie. Ça, c'est un point qui est assez remarquable. L'économie, elle était enchâssée dans le social. On parlait de l'économie à travers le social et du point de vue des salariés.
Il n'y avait pas le cahier à part, ni les pages saumon.
Non. Il y avait une rubrique phare qui était le social. Et en revanche, 32 ans plus tard, si vous ouvrez les trois principaux quotidiens français, qui sont Le Figaro, Le Monde et Libération, le social est traité au travers de l'économie, c'est-à-dire au travers du point de vue des entreprises, et en particulier des cadres supérieurs et des dirigeants d'entreprises, qui sont les populations ciblées par les annonceurs publicitaires du Monde, de Libération, du Figaro.
C'est vrai que la classe ouvrière, dont on pouvait parler beaucoup au départ et dont on ne parle plus, elle réapparaît dans les pages de Libé dans les années 80 dans la rubrique Faits divers ou psychiatrique.
Pierre Rimbert, je rappelle le livre que vous publiez dans la petite collection Raison d'agir, Libération de Sartre à Rothschild. Voilà pour l'ambiance et le climat et les conditions de création de Libération en 1973. Mais, évidemment, ce journal, 32 ans maintenant, a connu un certain nombre de ruptures fameuses, et le pays aussi a connu des ruptures fameuses. Celle de 1981, c'est-à-dire l'arrivée de la gauche au pouvoir, évidemment, a une répercussion pour Libération.
Oui, en 81, le Libération première formule disparaît. En février 81, il y a une succession de crises internes au journal, et Libération suspend sa parution et ne reparaît qu'au lendemain de la victoire de Mitterrand à l'élection présidentielle. Et le nouveau Libération qui paraît à ce moment-là n'a presque rien à voir, si ce n'est le titre, et l'identité de son directeur, avec le précédent. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, certains parce qu'ils estimaient que le nouveau journal trahissait ce qu'il représentait auparavant, et puis beaucoup d'autres rédacteurs sont arrivés, notamment des jeunes journalistes tout frais et moulus de Sciences Po, des gens qui parlent beaucoup d'économie, qui veulent faire un journalisme professionnel, conforme à ce qui se fait ailleurs, un journaliste de référence, de qualité, comme ils disent, mais du coup, une partie des thèmes qui inspiraient le premier Libération, notamment les luttes sociales, les thèmes un petit peu marginaux dans les autres journaux, dont les autres journaux ne parlaient pas, vont se raréfier dans les colonnes de Libération, qui va adopter, en revanche, une ligne rédactionnelle inédite dans la presse française, en tout cas dans la presse quotidienne. C'est la ligne libérale-libertaire.
Mmh.
C'est-à-dire, du point de vue économique, orthodoxie libérale. Défense de la rigueur économique. Défense de l'ouverture au marché européen, etc., etc.
Réalisme, il y a tout un langage qui se met en place.
Voilà, c'est le réalisme. Il faut surtout se défier des idéologies. Bon, c'est l'ambiance des années 80. Regardez la réalité en face. Ni droite, ni gauche, modernité. Voilà. C'est le slogan de Libération. C'est le slogan de l'équipe qui anime le service économique, en tout cas, de Libération. Mmh. Et orthodoxie économique, mais aussi excentricité culturelle et progressisme sur les questions de société. Parce qu'évidemment, si le journal n'avait qu'une ligne de libéralisme économique, il serait immédiatement classé à droite. Or, là, ce journal accommode ce libéralisme économique d'un certain progressisme sur les questions de société et sur les questions culturelles. Et
cette ligne... Il y a une façade libertaire, il y a une façade liberté des mœurs, liberté chérie.
Oui, Libération des années 80, c'est l'apologie de la rigueur et les bandes dessinées érotiques dans le même journal. Mmh, mmh. C'est la célébration simultanée de la libre entreprise et puis de SOS Racisme. C'est les cours de la bourse, le libre-échange et les soirées branchées et déjantées dans les catacombes parisiennes. C'est tout ça à la fois. La ligne libérale-libertaire, c'est en quelque sorte tricoter dans le même gilet les élans de Coluche et puis les idées de Raymond Barre. Et ce qu'il y a de particulier avec cette ligne rédactionnelle, c'est que elle va procurer au public de Libération une espèce de sas d'acclimatation idéologique. Un sas d'acclimatation très douillé, parce que, un petit peu comme dans un salon d'essayage, les lecteurs vont pouvoir enfiler les vestons de la pensée de marché, mais tout en restant à l'abri derrière un rideau d'audace sexuelle plus ou moins éventée, de frasques culturelles, et puis de bonne conscience de gauche. Donc, c'est un élément assez important dans les années 80.
Est-ce que le lecteur s'en rend compte de ça? Est-ce qu'il est conscient de ça? Ou bien c'est un glissement qui se fait peu à peu?
C'est-à-dire que le lecteur a pas mal changé quand même depuis les années
73,
70.
Oui.
Voilà. Il a changé. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce ne sont pas les mêmes. Mais ces lecteurs ont changé. Ils étaient marginaux. Ils étaient souvent... sans emploi stable, ils étaient très militants. Et puis, dans les années 80, ils ont souvent un emploi stable. Ils sont en train de s'installer dans la société. Ils vont contracter des emprunts immobiliers. Bref, ils sont bourgeoises et Libération les accompagne. C'est le journal mouvement d'un embourgeoisement.
À l'intérieur du journal, comment ça se passe? Est-ce que les rédacteurs, tout le monde suit ces transformations? Il y a des départs, il y a des cassures, il y a des... Je suppose, évidemment.
Il y a toujours eu un très grand nombre de départs, de cassures, de gens qui trouvaient le journal encore trop à gauche, ou alors insuffisamment rémunérateur, qui partent au Nouvel Observateur ou au Matin de Paris. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens dont on n'entend jamais parler, mais qui sont partis parce qu'ils estimaient que ce journal trahissait leurs idéaux. Et c'est ce qui est un peu terrible avec Libération, c'est que toute la mémoire, toute l'histoire de ce journal est captée à leur profit par les dirigeants qui sont restés et qui, eux, ont renié. Les renégats à Libération ont en quelque sorte
le pouvoir.
Privatisé l'image et l'ensemble des luttes que ce journal a menées, y compris celle de la période pendant laquelle il était extraordinairement progressiste, à la fois sur les questions économiques, sociales et de société.
En 1982, c'est le début de la pub dans Libé.
Libération, avec d'autres journaux, Globe par exemple, ou l'événement du jeudi, a beaucoup contribué à redéfinir ce que devait être la gauche. Hein, à redéfinir la gauche autour d'un espèce de coulis de valeurs consensuelles qui excluait l'anticapitalisme. Être de gauche, mais à condition que les idées économiques de la gauche soient empruntées à la droite.
À toi qui naguère professais la dissidence et le maquis, tes cris de guerre, qu'en as-tu fait? L'hymne est là, carte du parti et ses manières si polissées, toutes ses danses de salon, ses airs comme tu vomissais, c'est comme un gant qui le tourne. Oh, les temps changent, oh, les temps changent, oh, les temps changent. Tu vas croquer, tracter, slogan, mot d'ordre et manifestation pour des choses plus élégantes, des RH, golf et stock options. Tu la vie, ta prise, la chanson, qu'importe puisqu'il est de bon ton. Autant se mettre au diapason, c'est pour le bien de la nation. Oh, les temps changent, oh, les temps changent. Ne te salue pas ni ne te félicite. D'ailleurs, tu as ta conscience. Pour toi, la chose est affaire de valeur. Ok, c'est un peu démago, je te le concède, je l'entends. Avoue, c'était bien trop tentant. Entre gauchos, on se comprend. Oh, les temps changent. Oh, les temps changent.
Alors, on a parlé de ceux qui ont collaboré à Libération et qui se sont mis en rupture. On le disait en commençant, le plus fameux, quoi qu'il soit pas bien très célèbre aujourd'hui, et il mérite de l'être, c'est Guy Hockenheim, qui a disparu il y a quelques années, et qui, en 1986, donc sort ce bouquin, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, et Guy Hockenheim est reçu par Bernard Pivot dans Apostrophe.
En mai 68, ils avaient 20 ans. En mai 86, ce sont des quadragénaires où on passe de lettres. Et en épigraphe de cette émission, je voudrais vous citer une publicité que vous avez probablement lue dans vos quotidiens. En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine. Alors, Guy Hockenheim, lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, c'est déjà méchant. Dans les textes cités en épigraphe, il y a cette phrase célèbre de Marcel Jouhandeau, disant aux manifestants de mai 68, « Rentrez chez vous, dans 10 ans, vous serez tous des notaires. » Et puis, il y a cette... Alors, là, j'ai le choix.
Un peu trompé, ils ne sont pas tous devenus notaires.
Ils ne sont pas tous devenus notaires. Et alors, là, j'ai le choix, là, dans vos... pour donner votre ton, votre colère, ex-gaucho, ex-contestataire, ex-révolté, ex-mari, toujours en divorce de mai 68, aujourd'hui membre à vie du club ouaté des renégats. Qui sont ces renégats?
Les renégats sont tous ceux qui, tout simplement, ont écrit des livres ou ont participé médiatiquement dans des journaux ou à la télévision à cette forme de restauration des idées que nous avons vues depuis une dizaine d'années. Je parle de restauration, je sais que c'est un mot que les gens emploient plutôt politiquement. Par exemple, on dira Chirac, c'est la restauration. En fait, je ne crois pas. Moi, je crois que la restauration réelle des idées dans ce pays, elle a commencé à la fin de Giscard et elle s'est faite de façon massive, à mon avis, sous Mitterrand et sous la gauche. Et ce que j'appelle la restauration, c'est le fait que tout ce qui avait été contesté, tout ce qui avait été nié, tout ce qui avait été provoqué d'une certaine manière par mai 68 et la suite, est redevenu au contraire un sujet de respect, de conformisme, d'agenouillement, à savoir le pouvoir d'État, le fric, l'armée, la bombe, l'économie en tant que sujet abstrait, comme ça, devant lequel on s'incline. Tout ce qui, d'une certaine manière, avait été rejeté par une adolescence utopique ou généreuse.
Serge Julie, qui a été votre patron à Libération, alors vous lui taillez un sacré costume, hein, ça... Oh là 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 là! Oh, il y a 10 pages! Qu'est-ce que vous lui mettez?
Alors voilà, en quoi Libération est-il renégat depuis la période de 73 à maintenant? Si vous lisez un quotidien comme Libération, vous constatez que tout ce qui a été, on peut dire, l'axe de la politique de Libération, ce qui a fait sa célébrité d'ailleurs, c'est-à-dire la contestation de toutes les valeurs, c'est-à-dire la lutte aux côtés des mouvements minoritaires, qui soient d'ailleurs du féminisme, du mouvement homosexuel, des mouvements du tiers-monde, de tous les mouvements qui à l'époque représentaient la contestation. Cette position-là est définitivement abandonnée. Lisez Libération aujourd'hui. Libération aujourd'hui est un journal extrêmement bien fait, si l'on veut, mais dont l'axe est la défense de la hiérarchie du pouvoir, la défense dans le domaine économique des formes, disons, d'entreprise très proches de ce que Bernard Tapie défend également. D'ailleurs, je crois que Bernard Tapie et Libération ne sont pas très loin aujourd'hui. Dans le domaine militaire, c'est la défense de l'intervention au Tchad, par exemple. C'est systématiquement la défense des positions les plus extrêmes à l'intérieur même de l'étatisme ou du respect des valeurs établies. C'est à propos, par exemple, de l'immigration. C'est, par exemple, cet argument à propos des extraditions de Basques qui m'avait beaucoup frappé, que j'ai cité, quand Libération a mis en une, quand on a parlé d'extrader les Basques, le tabou de l'extradition va-t-il enfin sauter? Qu'est-ce que voulait dire cette phrase? Ça voulait dire le tabou consiste à ne pas extrader les gens. Le tabou, d'une manière générale, aujourd'hui, sont toutes les idées dites de mai 68, ou contestataires, peu importe, d'après mai 68 également, et la destruction des tabous, ça consiste essentiellement à permettre aux gens d'avoir des positions encore plus réactionnaires, c'est-à-dire datant d'avant mai 68, en gros.
Voilà, Guy Hockenheim, c'était il y a 20 ans, presque 20 ans, 1986, lors de la sortie de son bouquin, dans l'émission de Bernard Pivot, Pierre Rimbert.
Oui, il faut peut-être ajouter que la restauration des années 80 dont parle Hockenheim a cette propriété particulière, c'est qu'elle s'est en même temps parée des plumes de la subversion. C'est une restauration qui s'est présentée comme une révolution. Et Libération était emblématique de ce mouvement-là, puisque d'un côté il traitait des thèmes dont parle Hockenheim, et puis de l'autre, il apparaissait comme étant un journal subversif de gauche. Et dans la presse écrite des années 80, l'ordre moral est tellement associé à la droite qu'il suffit de dire un gros mot, de faire une blague, un jeu de mots, de montrer dans un journal une photo de nu, du porno chic, des photos floues, des choses comme ça, pour paraître de gauche. Hein, c'est vraiment la technique, le procédé par lequel, depuis 25 ans, Libération apparaît comme une publication subversive,
et c'est de gauche. C'est sous ce masque-là que le néolibéralisme rentrera en France. Il aurait été difficile qu'il rentre aussi facilement qu'il était rentré en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Ça a été le masque. Finalement, Libération est le faux-né de la révolution conservatrice néolibérale.
En tout cas, en matière économique, Libération a profité de cette image subversive, de ces transgressions formelles qui existaient dans ces colonnes, pour dissimuler un conformisme économique extraordinaire. Parce que le libéralisme, faire passer le libéralisme pour une idée moderne, c'est quelque chose, c'est un exploit. Le libéralisme, c'est une idéologie recuite qui, depuis deux siècles, qui échoue perpétuellement et qui, à chaque fois, est représentée comme quelque chose de moderne, comme la pointe de la modernité. Mmh. Et ce qui s'est passé avec le libéralisme, faire passer cette vieille idéologie pour le modernisme le plus accompli, s'est également produit pour la publicité. La publicité, c'était un des tabous dont parle Hockenheim dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Libération s'est fondée en partie contre la publicité. Le manifeste du journal proclamé en 72, je cite, « Il n'y aura pas de publicité, car les annonceurs, en finançant la presse, la dirigent et la censurent. » En 82, la publicité entre dans Libération, dans les colonnes, notamment pour marquer la rupture avec l'ancienne formule. C'est le signe tangible que Libération a changé. Mais tout de même, un peu craintif des réactions de ses lecteurs, Serge Julie va publier une série d'articles dans lequel il va transformer cette concession au marché, à la marchandise, en une forme de subversion. C'est pas du tout Libération qui change en accueillant de la publicité. C'est, nous dit Julie, la publicité qui a changé. Il faut souligner que la publicité, c'est non seulement une façon de faire rentrer de l'argent dans les caisses d'un journal, mais ça transforme aussi la nature d'un journal. Parce que il ne s'agit plus seulement de vendre de l'information aux lecteurs.
Il s'agit de vendre des lecteurs aux annonceurs.
Exactement. Et du même coup, les lecteurs vont acquérir une valeur proprement marchande pour le journal. On ne donne plus la parole au peuple, on vend le peuple à ceux qui les détroussent, les publicitaires, les industriels. D'ailleurs, aussitôt après avoir introduit dans ses colonnes la publicité, Libération va chercher à mieux connaître ses lecteurs, leurs propriétés, leur pouvoir d'achat, leur goût, qu'est-ce qu'ils dépensent, et la direction va commander à la Sofresse une enquête d'opinion pour savoir ce qu'il y a dans l'intimité de ses lecteurs. Et les informations révélées par cette enquête vont ravir les publicitaires, puisque, selon la Sofresse, 54% des lecteurs de Libération possèdent, je cite, un appareil photo à objectif interchangeable, 30% sont équipés d'un briquet de 500 francs ou plus.
En 82, oui,
c'est
pas
beaucoup.
Mal.
30%, je cite, d'un stylo de 250 francs ou plus, 56% d'une chaîne IFI de 3000 francs et plus, et tout de même 1,3% d'un bateau à voile ou un moteur de plus de 6 mètres. Donc, voilà les questions que Libération se pose à propos de son lectorat une fois qu'il s'est décidé à accueillir la publicité.
On s'est dit, cette histoire de tout nationaliser comme ça à toute vitesse, de dépenser de l'argent, de répandre du pouvoir d'achat, ça va pas marcher. Ça a l'air de gauche comme ça, ça a l'air très bien, c'est très social. Ça va se heurter aux réalités financières. Il y avait une volonté de réalisme en même temps. À la fois de voir les réalités et de les traduire sur le plan journalistique, et puis une volonté politique d'en tenir compte. Ce qui fait que Libération s'est transformée en un an, en un journal de la rigueur. On a été les instruments, au fond, de la victoire du capitalisme dans la gauche. On a été les instruments, au fond, de la victoire du capitalisme dans la gauche.
Alors, cette phrase-là. Alors, il faut dire que c'est Laurent Geoffrin qui parle. C'est en 1993, c'est le 2 juin 1993, c'est ça? Et il y a cette phrase, évidemment, nous avons été l'instrument de la victoire du capitalisme dans la gauche.
Voilà, et là, il parle de l'époque 82-83, où lui, Laurent Geoffrin, était un pilier du service économique de Libération, qui était alors dirigé par Pierre Briançon. Mmh. Un journaliste, jeune journaliste, Sciences Po, etc.
Qui a été éditorialiste ici à France Inter.
Oui, et qui maintenant écrit des éditoriaux dans le Wall Street Journal et qui préside l'agence Dow Jones Newswires. Peu après avoir quitté d'ailleurs le service économique de Libération, Pierre Briançon a écrit un bouquin qui s'appelait « À droite en sortant de la gauche ». Mmh. Qui résume un petit peu son état d'esprit politique. Mais je voudrais souligner quand même que quand Laurent Geoffrin ou Pierre Briançon expliquent « Libération a été le journal de la rigueur », qu'ils s'en vantent et qu'ils présentent cette option politique comme un signe de modernité, il faut voir que les lecteurs de Libération, donc ces cadres branchés qui font la joie des publicitaires, ne sont pas du tout les premiers touchés par les restructurations industrielles, par les conséquences de la rigueur. C'est des restructurations industrielles qui vont mettre des dizaines et des dizaines de milliers d'ouvriers au chômage, dans les chantiers navals, dans la sidérurgie. Tout ça ne les concerne pas à Libération. Les ouvriers, la classe ouvrière, le social, c'était l'affaire du premier Libération. Alors, on pouvait se prévaloir de la classe ouvrière parce qu'on se sentait grandi lorsqu'on en parlait. Une fois que ces restructurations industrielles sont annoncées par le gouvernement, Libération laisse tomber cette population qui, en quelque sorte, ne lui rapporte plus rien pour aller draguer, cette fois, chez ce qu'on appellera un peu plus tard les bobos. Il faut voir que quand Serge Julie décrit les sidérurgistes qui vont manifester à Paris en avril 84 pour sauver leur région, les sidérurgistes lorrains, quand Serge Julie les décrit comme, je cite, « une arrière-garde qui s'oppose à l'épreuve de vérité du réalisme », les lecteurs de Libération ne se sentent pas du tout concernés. C'est un journal qui ne s'adresse plus au monde populaire, au monde ouvrier, qui est encore une fois le premier touché par les politiques économiques mises en place par la gauche.
Pour ne pas avoir la prétention de croire que nous, journalistes, faisons l'histoire avec des articles, Libération habitera là où vivent les acheteurs du journal.
Ce qui est important dans votre bouquin, c'est que c'est pas seulement l'histoire, encore une fois, l'histoire de Libération, ni de son patron emblématique, Julie, dont il est question. C'est de tout le pays, c'est de tout le pays, de toute une culture, de tout un monde qui bascule. Il y a un moment de bascule idéologique, on peut dire, qui s'opère et que Libération, le monde, on pourrait en parler aussi d'une autre façon, illustre, répercute et suscite.
Exactement, parce que en tant que quotidien généraliste le plus jeune dans la presse française, dans la presse quotidienne française, Libération est fondée en 73, Le Monde est beaucoup plus âgé, Le Figaro encore plus, Libération va être l'un des journaux les plus sensibles aux transformations qui vont affecter l'ensemble du champ journalistique. Hein, ça va être un petit peu le séismographe de l'état de la presse française. Et du coup, au début des années 80, ce journal va être très affecté par un certain nombre de modifications du journalisme. Première modification, l'emprise croissante de la télévision. La télévision, qui était avant l'ORTF, qui était peu crédible sur le plan des informations qu'elle apportait, parce que suspectée d'être aux mains du pouvoir, la télévision, en matière d'information, va prendre un rôle de plus en plus important dans les années 80.
J'ai vu apparaître la télévision comme, d'une certaine manière, interlocuteur muet, bruyant, pour faire la une. C'est-à-dire que dans le bureau de Serge ou des trucs comme ça, avant de faire la une, les années passant, eh ben on ne faisait la une qu'à 8h30.
Et justement, Libération va s'engager dans cette brèche, puisque dès 82-83, le journal entreprend de devenir une entreprise multimédia. Il va lancer sa chaîne de télévision, ou en tout cas une boîte de production pour faire de l'audiovisuel. Et puis il va se lancer sur une radio, Radio Libération. Et puis sur une agence de photos qu'il va monter. Et puis sur une entreprise de prise de participation dans les pays de l'Est. Bref, il s'agit de faire de Libération un groupe multimédia. Il y aura même, au début des années 90, un projet de fusion avec le journal Le Monde. Pour faire une seule entreprise, hein, avec un quotidien du matin qui serait Libération et un quotidien du soir qui serait Le Monde, mais avec une seule entreprise. C'est un espèce de combat pour la liberté de la presse qui consiste à devenir monopolistique sur un créneau. Et puis la deuxième transformation qui très importante qui va affecter le champ journalistique dans les années 80, c'est évidemment l'emprise de l'économie, la constitution ou le renforcement de grands groupes de presse et la nécessité pour les journaux qui jouent ce jeu, qui décident de jouer le jeu des grandes entreprises de presse, d'ouvrir leur capital, d'obtenir de plus en plus de capitaux. Et c'est une spirale dans laquelle Libération va être pris.
Vous évoquez la guerre et vous évoquez la Libération. Vous évoquez comment la presse française, qui avant la guerre était entre les mains de un peu comme aujourd'hui, hein, de propriétaires intéressés de posséder des titres comme moyen de pression, de moyen de pression politique, de moyen de pression de toutes sortes, se sont vautrés. Pendant la deuxième guerre mondiale, ont collaboré et ont été, ils pouvaient pas reprendre.
Ils ont été expropriés. Effectivement, avant guerre, l'équivalent du Monde, qui était Le Temps, était possédé et dirigé plus ou moins par le comité des forges. Et la presse d'avant-guerre avait atteint un degré de corruption presque inouï. Et l'une des premières choses que le gouvernement provisoire fait en 44, et au début 45, c'est de réglementer très strictement et très sévèrement l'économie de la presse. Il faut croire que ces mesures n'ont pas été suffisamment fermes, puisqu'effectivement des groupes industriels qui étaient emmenés par Lagardère ou par Hersant, condamné à 10 ans d'indignité nationale après la guerre pour fait de collaboration, Hersant, Lagardère, Prouveau ont rebâti des groupes de presse très importants, dont certains aujourd'hui continuent de dominer le paysage médiatique français, comme Lagardère.
On vous a parfois censuré, par exemple, un article est prêt, avez-vous reçu un coup de téléphone de Robert Hersant vous disant « Non, il n'est pas question qu'on fasse cet article-là, il n'est pas question que l'on titre de cette manière-là »
Écoutez, ce sont des choses qui arrivent dans tous les journaux, et ça me paraît tout à fait normal. Je pense que tout propriétaire a des droits sur son journal. Hein, d'une certaine manière, il a, lui, le pouvoir. Vous parlez de mon pouvoir. Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une vaste rigolade.
Disons le pouvoir du journaliste.
Oui,
disons la responsabilité.
Enfin, le pouvoir du journaliste. Oui. Les journalistes passent leur temps à pousser des gens qui s'écroulent, passent leur temps à créer des modes qui s'évanouissent aussi vite qu'elles sont apparues. Bon, il y a des vrais pouvoirs. Le vrai pouvoir stable, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça, c'est le vrai pouvoir. Mais il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et je trouve pas ça anormal. Ça se passe dans tous les journaux. Il n'y a pas un journal où ça ne se passe pas. Tous les journaux fonctionnent de la même façon.
Ça, c'est Franz-Olivier Gisbert, en 1989, qui fait un aveu honnête, lucide, sur son métier et l'influence des propriétaires ou des actionnaires sur le journal.
Et oui, les fondateurs de Libération connaissaient déjà cette propriété particulière du capital de dominer ce qu'il possède. Ils savaient, les fondateurs de Libération savaient que qui possède dirige, et c'est pour cette raison qu'ils avaient structuré Libération comme une entreprise autogérée. Autogérée, ça voulait dire déjà que les salariés possédaient le capital de l'entreprise, pas d'investisseurs extérieurs. Autogérée, ça voulait dire aussi que les salaires étaient égaux. Ça voulait dire aussi que l'instance décisionnelle, c'était l'Assemblée Générale. Il n'y avait pas de patron. Et puis, c'était aussi pas de publicité. De la sorte, les gens qui ont fondé Libération avaient placé leur entreprise, en quelque sorte, hors marché. Certes, ils vendaient une marchandise, mais l'entreprise de presse sur laquelle reposait Libération était une entreprise qui n'était pas concurrente avec les autres entreprises de presse. Le premier éditorial de Libération, le 22 mai 73, explique « Notre pauvreté est la mesure de notre indépendance. Libre des banques et de la publicité, nous ne dépendrons que de vous, que des souscriptions, que du mouvement pour une information libre. »
Ça avait marché. Oui, moi j'ai mis des sous là-dedans. Très bien que c'est... Après tout, c'est...
Vous vous êtes fait rouler.
Très bien que ça me rapporte un peu.
Et oui, bah justement, ça ne rapportait rien, précisément parce que l'entreprise Libération n'était pas soumise à la loi du profit. Les gestionnaires au sein du journal étaient absolument méprisés. C'était des gens qui essayaient d'éviter les coupures de courant et puis la venue des huissiers. En 73, Sartre, le premier directeur de Libération, avait déclaré, je le cite, « Nous avons refusé de devenir une entreprise industrielle commerciale. » Donc, c'est important parce que pour Libération, l'économie était quelque chose d'extérieur. Et par conséquent, les journalistes pouvaient traiter d'économie sans y être eux-mêmes soumis aux lois économiques, dans leur qualité de salariés. C'est quelque chose qui est assez important parce que, au début des années 80, le rapport de force entre les gestionnaires du journal et la rédaction va s'inverser complètement. Le nouveau Libération qui paraît en 81 n'est plus basé sur un projet rédactionnel, sur l'idée qu'on va changer le monde, sur des idées contestataires. Il est basé sur un projet d'entreprise. Il s'agit de faire marcher l'entreprise Libération.
Serge Julie, la participation du groupe Chargeur de Jérôme Seydoux est donc de 66%, vous avez d'une certaine manière perdu le contrôle de votre journal, ce qui n'était pas véritablement le projet initial.
Et ça dépend ce qu'on met sous contrôle. Quand on parle de contrôle, c'est un mot qui en général désigne, on vous demande vos papiers dans la rue, c'est un contrôle d'identité, on demande comment vous appelez. Voilà, donc quand on dit passer sous le contrôle du groupe Chargeur, d'abord on a fait cette opération volontairement. Moi, je suis pas du tout de ceux qui pensaient qu'on peut faire de la presse en étant déficitaire. Jusqu'à 93, le journal gagnait de l'argent tous les ans. Nous avons fait une mauvaise année 94, 95, 96 sera une année qui sera encore un peu déficitaire. Mais 97, mon objectif, notre objectif, est évidemment de revenir à
l'équilibre parfait et rentabilité.
Oui, mais vous savez, l'indépendance, c'est très simple. Il faut que ça marche, il faut gagner de l'argent. Donc, ça nous oblige, nous, à faire des journaux très performants, à avoir beaucoup d'imagination. Et d'une certaine manière, on a des problèmes quand on n'a pas assez d'imagination.
L'équipe de Libération va protester de son indépendance et grand seigneur Jérôme Seydoux octroie, on pourrait dire, une charte d'indépendance à l'équipe. Charte d'indépendance qui sonne un peu comme la charte des libertés individuelles que les Bourbons avaient octroyée au peuple à la Restauration. Jérôme Seydoux en explique la portée, je cite Seydoux, « Je leur reconnais une liberté de pensée totale, mais pas la liberté de modifier globalement le produit en se moquant des lecteurs. »
Nous n'avons pas de respect pour les institutions, par exemple pour la justice, par la loi, parce que ce n'est pas la population qui l'a fait et ce n'est pas elle qui la contrôle.
Au moment du rachat de Libération par Jérôme Sédoux, les syndicats ont protesté. De même qu'au moment du rachat de 39% de Libération par Édouard de Rothschild, les syndicats ont protesté. Mais l'équipe, dans les deux cas, a voté majoritairement en faveur de ces rachats. Il faut dire que la direction de Libération a habitué à la fois ses lecteurs et les salariés du journal à une rhétorique, un discours permanent de l'indépendance renforcée. C'est presque cocasse. À Libération, chaque station de la course à la dépossession capitalistique a été ponctuée de textes de la direction expliquant que l'autonomie, l'indépendance du journal étaient non seulement intactes, mais aussi renforcées. Par exemple, l'introduction de la publicité, c'est, nous dit Julie, je cite, « la garantie de notre indépendance future ». Ça, c'est en février 82. Lorsqu'on ouvre le Capital, en janvier 83, c'est évidemment, selon Julie, le moyen de, je cite, « garantir une indépendance journalistique que chacun peut vérifier au fil des parutions ». Et puis, au moment où les deux tiers des parts du journal sont confiés à des investisseurs extérieurs, la direction informe les lecteurs que le capital de Libération a été augmenté dans des conditions qui accroissent l'indépendance éditoriale. En 2000, 20% de Libération était racheté par un fonds de pension, un fonds d'investissement britannique, le fonds 3i, et la direction de Libération commentait ce rachat en expliquant qu'il s'agissait du triomphe de la stratégie de l'indépendance. Donc ça n'étonnera personne qu'au moment où Édouard de Rothschild rachète une partie importante, devient l'actionnaire de référence de Libération, la direction explique que cette opération, je cite, « consolide l'indépendance ».
Nous ne sommes pas seuls juges de l'opportunité de telle ou telle publication-là.
Il est singulier qu'en 2005, Libération soit une société anonyme dont le conseil d'administration réunit un banquier d'affaires, un ancien directeur financier de Vivendi, l'ex-directeur général du Forum économique mondial de Davos, et puis une directrice générale adjointe de Suez, qui a aussi comme particularité d'avoir été l'attachée de presse d'Édouard Balladur. Bon, c'est vrai que pour un journal fondé par Jean-Paul Sartre et qui devait incarner l'utopie d'un journalisme contestataire, ça fait un peu désordre en 2005. Moi, ce qui m'a frappé, c'est ce qu'ont écrit les salariés en lutte de Libération dans un supplément qu'ils ont consacré à leur grève. Je les cite. « Et pourquoi ne pas réfléchir à un quotidien gratuit, à des suppléments interlopes ou intrépides ? Toutes les utopies, toutes les folies sont à l'ordre du jour. » Fin de citation. Est-ce que c'est cela l'utopie d'un journalisme différent, d'un journaliste qui pourrait être contestataire, l'idée d'un journal gratuit ? D'un journal qui soit entièrement financé par la publicité. Cette trajectoire-là rappelle un peu celle d'une publication américaine, hein, le Village Voice, qui était un hebdomadaire contestataire, mm-hmm. qui a porté aussi le mouvement pour les droits civiques, qui était un journal de gauche, et qui aujourd'hui est un journal gratuit, un sac à pub. Est-ce là l'avenir de Libération ? Est-ce qu'on a à ce point cessé de penser qu'on pouvait soustraire la presse et qu'on pouvait soustraire l'information à la loi du profit, à la loi de l'argent, que la seule issue d'un conflit aussi intense que celui que viennent de vivre les journalistes de Libération soit l'idée, la perspective d'un journal gratuit. Il faut se rappeler que depuis des siècles maintenant, depuis au moins deux siècles, les penseurs, les hommes politiques, les femmes politiques de gauche, les syndicalistes ont toujours tenté de soustraire l'information au marché.
Voilà, merci Pierre Rimbert. Je rappelle le titre de son bouquin Libération, de Sartre à Rothschild, aux éditions Raison d'agir. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique Là-bas si j'y suis, réalisation Antoine Chaouyan Chouquet. Le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 17h pour Là-bas si j'y suis, et après un peu de pub, vous retrouvez Bruno Duvic pour les informations.